Bonsoir à tous. Élisée Houpatin avec vous est ravi de vous retrouver pour Sporama sur VOA Africa. Heureux également de revoir mes consultants avec qui nous allons parler du report du championnat d'Afrique des Nations en août prochain. On fera aussi le point des qualifiés pour les quarts de finale des interclubs de la CAF, puis de la participation des équipes africaines au championnat du monde de handball. Je salue Jules Valentin Ngwe en ligne de Libreville au Gabon. Bonsoir Jules.
Bonsoir Élisée. Bonsoir à tous.
De Casablanca au Maroc, nous avons Amine Birouk. Bonsoir Amine.
Bonsoir Élisée. Bonsoir à tous.
Lawal Dean Kosuro est lui à Porte-Nouveau, la capitale du Bénin. Lawal, bonsoir.
Bonsoir Élisée. Bonsoir amis auditeurs de VOA Afrique.
Et puis, de Columbus dans l'Ohio aux États-Unis, nous recevons Ahmedine Sy. Bonsoir Ahmedine.
Bonsoir Élisée. Bonsoir à tous les auditeurs de la VOA Afrique.
Allez, Sporama, c'est parti. Le CHAN 2025 ne se tiendra donc plus en février, mais plutôt en août 2025. Cependant, ce report n'a pas empêché la Confédération africaine de football de procéder au tirage au sort de la compétition. Une cérémonie qui s'est tenue à Nairobi où le Kenya est logé dans la poule A avec le Maroc, l'Angola, la RDC et la Zambie. Alors, Amine, de sacrés adversaires pour les Lions locaux.
Des adversaires redoutables, on va commencer par le pays organisateur qui aura l'avantage de jouer devant son public, en altitude, avec des repères qu'il connaît, même si le football kényan a depuis très longtemps quitté ou n'a jamais été forcément un foudre de guerre, mais il faut s'attendre à des difficultés posées par le fait de jouer devant son public, le fait d'avoir tout le support d'une nation qui aimerait faire bonne figure pendant la compétition. Il faudrait aussi penser à l'Angola avec ses clubs, qui sont tous redoutables. On imagine Petro Atlético, Interclube, Primeiro de Agosto, Sagrada, Esperança, qui sont rodés aux joutes africaines. Idem pour la RDC, double tenant du titre en 2009 et 2016, qui débarquera avec des ambitions. Avec l'ossature de TP Mazembe, les meilleurs éléments de Maniema ou encore de Vita Club. Autant dire que ce ne sera pas une partie de plaisir pour les Marocains face à ces trois adversaires. Si on devait ajouter la Zambie avec l'ossature de Zesco ou Zanaco, le fait que les Zambiens sont dans le même groupe que le Maroc et que le Maroc les a battus difficilement à Agadir 2-1 une fois à la CAN 1-0, ça montre que la tâche de l'équipe marocaine, quels que soient les éléments qui la composeront, ne sera pas des plus faciles. Maintenant, une compétition qu'il faudra aborder avec l'ambition de gagner le CHAN pour la troisième fois de l'histoire des Lions d'Atlas.
Merci Amine. L'autre pays organisateur, la Tanzanie va affronter Madagascar, la Mauritanie, le Burkina Faso et la Centrafrique. Je me dirige vers vous Jules. C'est un groupe abordable.
À première vue, Élisée, si. Mais si on entrait dans la profondeur des analyses qu'impose la différence entre le CHAN et la CAN, on se rendrait vite compte que les jauges à mesurer les chances de victoire des participants aux deux compétitions continentales ne sont pas les mêmes. Lors de la Grande CAN, les favoris pour la victoire, en dehors de l'Égypte et de la République sud-africaine, où le professionnalisme paye le mieux, sont les sélections truffées de joueurs expatriés, les appelés locaux étant aussi rares que des pipis de chat. Par contre, au CHAN, une compétition réservée aux seuls locaux, les pays les plus redoutables sont ceux qui, malgré leur manque de professionnels, ont commencé à tenir la dragée haute depuis deux ou trois phases finales de la CAN aux grandes nations consacrées. Et parmi eux, justement, ces troubles faits, qu'on ne peut citer sont Madagascar, quart de finaliste en Égypte en 2019, la Mauritanie au deuxième tour en Côte d'Ivoire en 2023, la Tanzanie présente également en Côte d'Ivoire et dont les clubs intègrent le Gotha continental depuis peu, la Centrafrique qui depuis peu de temps s'illustre aussi dans les poules éliminatoires des grandes compétitions, alors que le Burkina Faso demeure ce grand pays de formation qu'on connaît. Vous l'avez compris, ça va se bousculer plus que prévu dans cette poule B.
Enfin, l'Ouganda, troisième pays hôte de cette compétition, a hérité d'un groupe C en pointillé avec le Niger, la Guinée et les deux pays à déterminer à l'issue d'un tournoi qui va réunir cette équipe. Et puis, Ahmedine, quant au tenant du titre, le Sénégal, il jouera dans la poule D, le Congo-Brazzaville, le Soudan et le Nigeria.
Tout à fait, Élisée. C'est un groupe qui n'est pas du tout facile, il faut le dire, car je dirais même que la tâche ne sera pas facile hein, pour les champions en titre, car ils auront en face le Nigeria. Le Nigeria, comme vous le savez, ça a été toujours une équipe talentueuse, hein, mais une équipe très difficile à manœuvrer. Le Nigeria qui, d'ailleurs, effectue son retour après avoir manqué deux éditions. Il y a aussi quand même le Soudan. Le Soudan, comme vous le savez, Élisée, le football soudanais est en train quand même de monter en puissance. D'ailleurs, le Soudan possède l'une des meilleures bases locales en Afrique, ce qui veut dire que le Soudan va présenter une équipe nationale locale très bien fournie. Enfin, il y a le Congo qui a été quart de finaliste en 2018 et en 2020. Cela prouve tout simplement que la poule du Sénégal n'est pas facile, mais les lions locaux du Sénégal sont obligés de hisser leur jeu. Pourquoi pas faire ce qu'on appelle le back-to-back Élysée.
Un CHAN qui aura finalement lieu en août 2025 a annoncé la CAF dans un communiqué à la veille du tirage au sort. Le temps de peaufiner les derniers détails, estime le président de la commission d'organisation du tournoi, le Camerounais Seydou Mbombo Djoya.
C'était un report d'abord simplement pour rendre les choses plus faciles pour les pays organisateurs en question, parce qu'en réalité, ils ont fait des efforts incommensurables. Il faut rendre hommage à ces trois pays hôtes qui ont mis des moyens, leur gouvernement bien sûr aussi, pour se doter d'infrastructures sportives de qualité. Nous voulons faire les choses bien et on se donne un peu de temps pour que les choses soient parfaites. On n'est pas allé dans la précipitation. C'est un report qui mettra à l'aise tout le monde, qui permettra aux différents pays d'être vraiment fin prêts. Et il faut savoir que ces trois pays organisent également derrière, en 2027, la Coupe d'Afrique des Nations, la Grande CAN que tout le monde attend. Donc nous devons faire les choses méthodiquement. Nous avons fait des visites sur le terrain et on a constaté qu'il y a eu des efforts énormes qui ont été faits. Et il faut donner juste un dernier coup de pouce pour y arriver.
Voilà, c'est Seydou Mbombo Djoya, président de la commission d'organisation du CHAN. Alors, Amine, ce tournoi prévu en 2024, reporté en février 2025, se disputera finalement en août prochain.
Disons, c'est un nouveau rebondissement dans l'histoire de la gouvernance du docteur Patrice Motsepe. Franchement, si je devais parler de manière très objective, je dirais que jamais depuis 2019, la CAF n'a pu organiser ses compétitions majeures aux dates prévues. Ce n'est pas une exception. Il faut juste rappeler le process avec le secrétaire général qui imposait la compétition alors qu'elle ne figurait pas au calendrier 2025. Pensez aussi au fait que on a bousculé le calendrier des compétitions des clubs, qu'on a décalé d'un mois pour pouvoir organiser le premier tour préliminaire, puis le second tour. Le ridicule ne tue pas, dans la mesure où on a annoncé l'augmentation du prix, de l'identité visuelle de la compétition, des changements structurels, mais on s'obstine à la disputer à 19, chose qui n'existe ailleurs pas du tout. Sans oublier, bien évidemment, que à chaque fois que la CAF a voulu relancer le CHAN, elle l'a fait avec beaucoup, beaucoup de difficultés. Donc aujourd'hui, on se retrouve avec une compétition qui a été imposée, parachutée, avec un calendrier qui a été bousculé pour l'organiser en février. Et qu'est-ce qu'on fait? On cède aux diktats de certaines fédérations qui n'ont même pas daigné s'inscrire à la compétition. On sait que le Kenya n'était pas prêt, que l'Ouganda ne l'était pas non plus, mais le président de la CAF est parti là-bas, il a fait des déclarations politiquement correctes, et on se rend compte que finalement, il nous a vendu des illusions, et qu'aujourd'hui, elle devrait avoir lieu au mois d'août, au meilleur des cas, parce que rien n'écarte la possibilité qu'elle soit de nouveau décalée pour l'horizon 2026. Avec la CAF, tout est possible.
Merci Amine. C'était donc inévitable ce report à Médine, encore que le tableau des équipes qualifiées n'est pas encore au complet. Il en manque deux et il faut d'abord un mini tournoi qui va prendre en compte sept pays, à savoir l'Algérie, les Comores, l'Égypte, le Gabon, la Gambie, le Malawi et l'Afrique du Sud. C'est vraiment compliqué.
Ah oui, Élisée, c'est très compliqué. Et je pense que les responsables de la CAF, pour une fois, il faut le dire, ont bien fait de reporter cette compétition, car hormis hein, le problème d'infrastructure qui existe réellement, il y a aussi un problème sportif puisque il faut organiser un mini tournoi pour savoir les pays qui vont jouer ce SAN. Et on était à quelques jours quand même du début de cette compétition. C'est vraiment lamentable, c'est un manque de sérieux de la part des organisateurs, de la part de toutes les personnes qui sont impliquées dans cette affaire. Je pense que il fallait reporter ce SAN et ça a été fait. Je pense que c'est vraiment dommage, encore une fois, pour l'Afrique, vraiment dommage pour la CAF qui est en train quand même de tâtonner depuis l'arrivée de certain Patrice Motsepe à la tête de cette structure. Élysée.
Voilà qui est clair. Et puis l'élément sans doute principal, c'est bien la construction des infrastructures. Et sur ce point, Jules, le Kenya est vraiment en retard par rapport aux autres pays hôtes, la Tanzanie et l'Ouganda.
À vrai dire, Élysée, il faut savoir appeler chat-chat et chien-chien. Nul n'ignore la place majeure que le Kenya occupe comme grande nation sportive en général et d'athlétisme en particulier dans le monde, ni son statut de leader économique régional en Afrique de l'Est aux côtés de l'Ouganda, du Rwanda, voire de la Tanzanie voisine, moins nantis eux, mais plus engagés dans le développement du football continental, notamment en matière d'infrastructures et de volontarisme. Alors que ce dragon régional de l'Afrique de l'Est nous disent si le deal qu'il a signé pour être la grande locomotive de l'athlétisme mondial qu'on connaît implique aussi l'abandon total du football, qu'il nous l'avoue et on cherchera ailleurs. Dans tous les cas, le sport n'est plus un simple jeu, mais un challenge. De grâce, tirons tous dans la même direction.
C'est simple, Jules, que de difficultés pour organiser depuis un moment cette compétition créée en 2009. Ce qui m'amène justement à vous poser cette question, Lawal. Le CHAN a-t-il encore un avenir malgré l'augmentation des primes?
Oui, Élysée, on pourrait dire que le CHAN a encore un avenir parce que le fait de désigner les joueurs locaux des championnats en Afrique seul est capable de jouer cette compétition est une façon de promouvoir davantage la qualité des championnats. On ne peut pas le supprimer comme ça tout de suite parce qu'on ferait très mal. On n'allait pas rester dans la dynamique de Issa Hayatou qui l'a créé. Et quand on observe un peu les derniers ratés de ce CHAN, on se rend bien compte que les dirigeants de la CAF n'arrivent pas à anticiper sur l'essentiel qui doit être fait. On sait que pendant qu'on joue le CHAN par rapport au calendrier, il y a les championnats qui continuent. Donc d'avoir cours, il y a les coupes inter-clubs qui également continuent d'avoir cours. Donc il fallait revoir un certain nombre de choses. Maintenant, si on ne revoit pas le calendrier, on ne revoit pas le format et qu'on doit continuer sur cette lancée-là, on doit forcément s'attendre à ces ratés qu'on observe. Et ça ne peut pas continuer comme ça en Afrique. Il faut qu'on anticipe sur l'essentiel et qu'on puisse faire les choses de façon à ne plus avoir ces différents ratés à la dernière minute pour les compétitions majeures de la CAF.
On monte à présent sur les pelouses des interclubs de la CAF en Ligue des Champions. Ce sera les Mamelodi Sundowns qui vont accompagner l'ASFA du Maroc en quart de finale. Les Sud-Africains ont été contraints au nul 1-1 par les militaires de Rabat. En revanche, Amine, le Raja de Casablanca quitte la compétition.
Beaucoup de personnes au Maroc, beaucoup de personnalités attendaient ou voulaient que les Phares gagnent en Afrique du Sud. Ce résultat conditionné à une victoire avec 2 buts d'écart du Raja aurait permis aux deux clubs marocains de passer le cut des quarts de finale. Mais visiblement, l'AS FAR a été dominé pendant une bonne partie de la rencontre. Elle a concédé un but très tôt par Chalou Lélé après 13 minutes de jeu. Elle a du mal à imposer son jeu, à le poser et à émerger d'une domination d'une formation sud-africaine très fluide en termes de jeu, en termes de qualité offensive. Mais le coaching aidant avec l'entrée de Zahzou a permis à l'équipe militaire de rééquilibrer les débats en toute fin de rencontre et d'égaliser par ce joueur de 24 ans pétri de qualité qui a réussi à sauver le point du nul.
Les 10 dernières minutes du match, c'était du non-jeu de la part de Mamelodi Sundowns qui a préféré gérer le match nul et se contenter de la deuxième place. Dans l'autre rencontre, en revanche, rien n'a fonctionné pour le Raja en dépit d'une victoire 1-0 sur pénalty inscrit par Nefeti à la 45e minute. Mais après, l'équipe a eu du mal à accélérer, elle a eu du mal à se créer d'autres occasions. Bon, elle a frappé le poteau une fois, elle a raté quelques occasions nettes. Du coup, on a le binôme AS FAR, Mamelodi Sundowns dans cet ordre qui vont passer dans ce groupe. Et une victime, à savoir le Raja de Casablanca, qui n'a toujours pas réussi à retrouver un standing digne de son rang de triple vainqueur de la Champions League en 89, 97 et 99.
Le Maroc aura donc un représentant en quart de finale, l'AS FAR, du coup, qui termine en tête de son groupe. Jamil Benouaï, entraîneur adjoint du club au micro d'Amin Birouk.
Grande satisfaction par rapport à tout le voyage et toute la campagne. On avait à cœur de finir premier, comme on a commencé la toute première journée. C'était pas facile, mais bon, on a montré beaucoup de caractère sur tous nos matchs, plus ou moins. Et voilà, donc aujourd'hui, on est venu, en plus de se qualifier, c'est de jouer quand même Sundowns et un grand d'Afrique chez lui. Donc l'expérience en elle-même était très très importante pour la suite de la campagne.
Le Mouloudia d'Alger sera aussi en quart de finale après son nul 0-0 en Tanzanie contre les Young Africans. Grosse désillusion donc pour les Tanzaniens éliminés en phase de poule. Jules, sur ce match décisif, le Yanga n'a jamais trouvé la solution à domicile.
Oui, Élisée. Il est clair qu'avec les données d'avant-match qui étaient à l'avantage des Tanzaniens, auxquels une victoire sur une petite marge suffisait à domicile pour coiffer au poteau le MC Alger, ce nul vierge, synonyme d'élimination, est une contre-performance. Mais ce n'est pas une surprise en soi. Quand on connaît la capacité humaine, technique et tactique des clubs d'Afrique du Nord, lorsqu'il s'agit de ramener un nul décisif de l'extérieur, alors ce résultat n'est pas extraordinaire. Face à une formation obligée de gagner, dont de se découvrir, les joueurs du Mouloudia ont opposé un bloc hermétique mais toujours menaçant, obligeant les Tanzaniens à jouer le fusil sur la tempe avec ce que cela comporte comme pression négative, et ça a marché. En fin de compte, la hiérarchie est respectée dans ce groupe très homogène où l'ascension du Yanga, perceptible depuis 3 saisons, reste une réalité. Le deuxième club de Dar es Salaam, malgré son élimination, a ravi la vedette à son rival local, le Simba, et le Simba des riches, tout en confirmant son nouveau statut de terreur continentale avec laquelle il faudra désormais compter. On peut donc dire que la morale, elle, est sauve.
En cas donc, le Mouloudia d'Alger jouera les Mamelodi Sundowns. On aura aussi les oppositions. Al Hilal du Soudan, AS FAR du Maroc, Orlando Pirates, Pyramide d'Égypte et enfin, Espérance de Tunis face au tenant du titre, Al Ahly du Caire. Le remake de la dernière finale. On connaît aussi les confrontations des quarts de finale de la Coupe CAF. Et la SEC d'Abidjan profite de son large succès 4-0 face au Botswanais d'Orapa United pour affronter le tenant du titre, le Zamalek du Caire, qui de son côté élimine les Nigérians d'Enim. Ahmedine, battu 2-0 en Algérie par l'USM, le Djarab s'est fait éliminer. Et pourtant, le club du Dakar n'avait besoin que d'un match nul.
Tout à fait, Élisée. Pourtant, les points de Malick Diaf étaient quand même à 9 minutes de la qualification, car ils ont résisté jusqu'à la 81e minute lorsque Ismaël a ouvert le score pour l'Islam d'Algérie. Ce but, il faut le dire, est synonyme d'élimination pour les Dakarois des Djaraf. D'ailleurs, ils tenteront de remettre les pendules à l'heure sans succès. Et comme un malheur n'arrive jamais seul, les Sénégalais vont encaisser un second but dans les arrêts de jeu à la 99e minute pour être plus précieux. Avec cette élimination du Djaraf et cette défaite marquée, doublée par la victoire quand même de l'ASEC d'Abidjan qui a dominé littéralement Opara par 4-0. Donc l'ASEC d'Abidjan qui chute la deuxième place au Djaraf Élysée.
Merci à Medine. Alors, je viens vers vous, Lawal. Enima, double champion en C1 par le passé, n'a rien pu faire face aux Zamalek.
Enima, troisième, il faut reconnaître que Enima a laissé passer sa chance à domicile face à El Nasri. Ils auraient pu avoir les 3 points en ce moment. Pendant qu'ils étaient en pole position, ils ont laissé passer leur chance et ils n'ont plus les destins. en main aujourd'hui. Et ils ont payé cher, assez cher, face à Zamalek. Mais il faut constater que les équipes au sud du Sahara n'ont pas cette organisation-là, n'ont pas cette constance dans l'organisation. Et parce que depuis un certain temps, on a bien vu, après 2003-2004, Enyimba était au top niveau. Mais depuis, plus rien. 2023, je crois, un titre de champion du Nigeria, mais en phase de poule, ils ont été rapidement éliminés. Aujourd'hui, ils sont en Coupe CAF, ils n'ont pas pu se sortir des phases de groupe. Ça veut dire qu'il a manqué quelque chose à ces équipes-là, au sud du Sahara, et c'est désolant. Si on ne s'organise pas dans cette partie du continent, on ne pourra pas espérer quelque chose de bon pour la suite du football, Élisée.
Pour les autres affiches, on aura USM Alger, Al-Masri d'Égypte, Sima de la Tanzanie, Stellenbosch d'Afrique du Sud et Renaissance de Berkane, CS Constantine d'Algérie. On termine par le handball avec le mondial masculin de la compétition en Croatie, en Norvège et au Danemark. Et Amin Birouk, l'Égypte qui marque les esprits passe au tour principal, tout comme la Tunisie qui a arraché in extremis sa qualification en battant dans un duel fratricide l'Algérie sur le fil 26-25.
Voilà, troisième victoire en autant de matchs pour l'Égypte lors de ces championnats du monde. La dernière sortie a été impressionnante face à la Croatie, grande nation de handball, 28-24. L'impression, c'est que l'Égypte va jouer les premiers rôles. L'objectif, c'est de faire aussi bien, sinon mieux, que lors de l'édition 2001, où les Pharaons avaient été en demi-finale, quatrième, ou lors des JO de Tokyo, où ils avaient également terminé à la même place. On se rappelle que lors de leur dernière sortie internationale, lors des Jeux Olympiques de Paris, les Égyptiens avaient atteint la cinquième place. Donc c'est une constante dans cette équipe des Pharaons, avec une excellente défense, des tirs de loin, des contre-attaques, du rythme, ce qui donne une impression que c'est une équipe versatile qui est capable de jouer sur plusieurs registres. Voilà, mention très bien pour l'Égypte, mention passable pour la Tunisie et de gros points d'interrogation sur les autres représentants africains, notamment l'Algérie.
Justement, parcours difficile pour l'Algérie et la Guinée qui ont essuyé 3 défaites chacune. La dernière pour les Guinéens, 20-29 devant la Macédoine du Nord. Jules, c'est un apprentissage difficile pour la Guinée.
Un parcours difficile, mais ce n'est pas un scandale. Dans la mesure où la plupart des pays de handball en dehors de la sphère d'élite absolue que constitue l'Europe du Nord, de l'Est et du Centre, en plus des Pays-Bas, de la France, de l'Espagne ou de l'Italie, auxquels on peut ajouter hors d'Europe des pays tels que le Brésil, les États-Unis et le Japon, sont de véritables tours de contrôle infranchissables pour le reste du monde. En Afrique, seule l'Égypte, qui fait depuis peu partie du top 7 mondial, échappe à ce diktat. Alors, ce sont ces super pratiquants de handball qui ont réduit au silence aussi bien la Guinée, malgré ses énormes progrès, que des terreurs habituelles africaines comme la Tunisie, l'Algérie ou le Cap-Vert. On peut donc conclure que, face à la surpuissance de l'élite de ce sport de main, l'apprentissage reste difficile pour tous. Il faut d'abord s'approprier de la culture du handball pour espérer.
Alors Lawal, en somme, le handball africain a encore du chemin à faire.
Oui, beaucoup de chemin à faire quand on regarde les performances 2005 pour la Tunisie, 2021 je crois pour l'Égypte. Donc il faut forcément qu'on revoie de fond en comble les dispositions en Afrique. On se dit qu'on participe au championnat pour juste participer parce que les performances qu'on doit obtenir, on les obtient pas. Les seules grandes performances qu'on a eues, c'est 2005 et 2021. On espère pour l'Égypte qu'elle va continuer sur cette lancée parce que c'est le seul pays africain qui puisse continuer de faire rêver. Il est important pour la CAB de revoir de fond en comble l'organisation de ses propres compétitions, parce que quand la compétition en interne n'est pas de qualité, est-ce qu'on peut espérer quelque chose au plan mondial? Ce n'est pas évident. Donc on revoit de fond en comble, qu'on fasse une refondation des choses afin que le continent ne puisse plus être fait piètre figure dans cette compétition-là. Mais pour l'heure, je pense qu'on a encore beaucoup de chemin à faire, Élisée.
Merci Lawal. C'est ici que se referme Sporama. Merci à tous ceux qui nous ont suivis. On se donne rendez-vous lundi prochain. Au revoir.